Voisin. Avec Emmanuel Bastide pour les voisins et les voisines.
Bonjour, bienvenue, 7 milliards de voisins et de voisines. Aujourd'hui, on parle de la lecture. Les enfants et les adolescents aiment-ils encore lire? Et si oui, que lisent-ils? Des romans fantastiques, des histoires réelles, des bandes dessinées, mangas? Quelle différence aussi entre les filles et les garçons? Et à quoi sert vraiment l'imaginaire de la lecture dans la construction des enfants et des adolescents? Comment leur donner le goût de lire? Nous allons en discuter avec Sylvie Vassallo. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes directrice du Salon du Livre et de la Presse Jeunesse qui démarre la semaine prochaine, mercredi, c'est ça?
C'est ça, le jour des enfants.
Exactement, le 27 novembre jusqu'au 2 décembre à Montreuil, en région parisienne. C'est devenu un événement, c'est la 35e édition, hein, vous me disiez, avant qu'on commence l'émission.
Et oui, c'est un événement qui s'est installé, je crois que c'est le plus grand événement culturel pour les enfants, en fait, en Île-de-France.
Ouais, et c'est incontournable, alors bien sûr pour les éditeurs, hein, pour les auteurs de la presse jeunesse, et vous recevez énormément d'enfants, de collégiens, de lycéens.
On reçoit 31 000 enfants qui viennent dans le cadre scolaire et évidemment beaucoup plus puisque les enfants viennent également avec leurs parents, donc de toute l'Île-de-France et pas mal du département de la Seine-Saint-Denis. Il y a presque tous les collèges de la Seine-Saint-Denis qui y participent.
Et pas forcément en traînant des pieds parce que c'est obligatoire.
Non, c'est vrai que quand on visite ce salon, on est toujours un peu... Certains sont étonnés de voir à quel point les enfants aiment déambuler à travers les livres. C'est une vraie fête du livre, c'est très valorisé et ils s'y plaisent énormément.
Ouais, et beaucoup de plaisir, effectivement, pour les enfants à feuilleter des livres qui ne sont pas toujours présents à la maison. Caroy Fogarassari est également avec nous. Bonjour Caroy.
Bonjour.
Vous avez 24 ans, vous avez créé avec deux autres étudiants l'application Les Histoires de Lulu et Croy, disponible à partir d'un simple téléphone portable ou d'une tablette.
Exactement.
Et c'est pour les enfants de 8 à 12 ans. Alors vous nous direz si vraiment ça peut être une porte d'entrée vers la lecture. On sera également en ligne avec Chante Silué qui a créé le centre Ulysse, une bibliothèque pour les jeunes dans le quartier populaire de Yopougon à Abidjan en Côte d'Ivoire. Et quant à vous les voisins et les voisines, comment vous avez découvert la lecture? Qu'est-ce que vous faites pour faire lire les enfants et les adolescents autour de vous, dans votre famille, dans votre quartier? Appelez-nous si vous êtes un passionné de lecture. 33 1 84 22 71 71. C'est aussi le numéro gratuit sur WhatsApp pour nous laisser des messages et nous appeler. En fin d'émission, on aura la chronique du psychologue Ibrahima Giroud, parent-enfant d'ici et d'ailleurs. Aujourd'hui, on parlera du parent qui décadre. La semaine d'avant, c'était le parent qui cadre et ça rigolait pas tous les jours. Allez, je vous lis quelques messages publiés sur nos réseaux sociaux. Mahamadou est à Bamako, au Mali. Il nous dit « Chez nous, 5% des jeunes aiment lire. Les 95% restants passent pratiquement tout leur temps sur les réseaux sociaux. Ils ne fréquentent pas les bibliothèques. » Vous allez voir que tout le monde n'est pas de son avis. Gay à Dakar nous dit aussi « Se procurer un livre, c'est très facile aujourd'hui. Ce qui est difficile, c'est de trouver des jeunes lecteurs. » Message d'Ismaël à Dakar. Alors lui, il a posté sur WhatsApp. On l'écoute.
Bonjour aux 7 milliards de voisins. Aujourd'hui, les jeunes lisent mieux qu'ils ne le faisaient hier. Avec la magie de l'Internet, tout le temps ils sont en train de lire, tout le temps ils sont en train d'écrire. Ils ont même la possibilité de choisir ce qu'ils veulent lire, ce qu'ils ne veulent pas lire, ils le mettront de côté. Donc c'est ça encore un avancement quoi, par rapport à ce qui se passait hier. Regardez un peu moi qui suis né en 1976, les années 80, 90, les années 2000 jusqu'à 2005. On avait un manuscrit devant nous qu'on devait lire sans aucune possibilité de choix. Aujourd'hui, les choses ont évolué, le système a changé, les jeunes écrivent et lisent mieux qu'ils ne le faisaient hier. Merci.
Bonjour à 7 milliards de voisins. Je m'appelle Abdel Fattah Abdelkhadir. Je suis un Tchadien jeune âgé de 23 ans, étudiant en troisième année à l'université à Dambarka d'Abéché. La lecture est pour moi un élément important et s'inscrit dans mon quotidien. Je lis des livres fantastiques ou des livres avec des vampires, des loups, des garous et bien d'autres parce que ça me permet de mettre un stop à ma vraie vie et vivre une histoire tellement surnaturelle. Ça me fait rêver, ça me donne une bouffée d'énergie, cela me permet de m'évader de cette vie qui tourne tellement vite à la routine. Alors que si les aventures que je lis dans des livres pouvaient vraiment exister, on s'embêterait moins dans la vie courante. J'estime vraiment remercier ces auteurs de livres que je lis et qui nous permettent de vivre une autre chose que notre routine qui devient tellement lourde parfois. Je m'arrive même à me demander des fois comment font les personnes pour ne pas lire.
Comment peut-on ne pas lire? C'est quand même incroyable de poser cette question. Non, Sylvie Vassallo?
Oui, c'est vrai que quand on est lecteur, on sait à quel point, on sait ce qu'on doit à la lecture, qu'on ait pris le goût de la lecture petit ou même parfois à l'adolescence et même plus tard. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a ce déclic, qu'on peut s'évader dans les livres, se projeter dans les livres, se projeter dans ces histoires, on sait à quel point la langue et l'imaginaire nous portent et nous constituent. Mais pour autant, il y a quand même beaucoup d'enfants et beaucoup de familles qui ne sont pas pratiquantes de la lecture.
Caroy, vous avez toujours été lecteur ou pas d'ailleurs?
Moi, j'ai toujours été lecteur. J'ai même été écrivain, parce que j'ai toujours aimé faire des chroniques. Et ce qui est magique, et je vous rejoins, Madame Vassallo, sur ce point, c'est que ce qui est magique dans la lecture, c'est qu'on a tous des raisons différentes, mais qui sont tout aussi légitimes, d'aimer la lecture et de lire.
Et lesquelles sont-elles pour vous?
Pour moi, c'est une phrase de Philippe Mérieux que je trouve très juste, c'est la remise en cause des convictions par les connaissances et des connaissances par les convictions. Et je trouve extrêmement juste parce qu'effectivement, lire, c'est sans cesse se découvrir soi-même et découvrir un autre soi.
Ouais, tout déconstruire, donc, grâce à la lecture. Brahim est à Abéché aussi et il nous dit « Moi, j'ai l'habitude de lire des journaux de football. Ils me donnent envie de lire longtemps. » Qu'est-ce que c'est qu'un jeune lecteur, Sylvie Vassallo, finalement? Si on passe son temps sur Twitter, est-ce qu'on est un lecteur?
Oui, alors c'est vrai qu'aujourd'hui, la pratique de la lecture, c'est totalement diversifié. On passe, un auditeur disait qu'on passait beaucoup de temps à lire et à écrire quand on est enfant et quand on est jeune sur des écrans. C'est vrai, pour autant, tout ce qu'on lit ne véhicule pas forcément la même chose. L'écriture et la lecture de communication ne véhiculent pas la même chose que la lecture de connaissances ou la lecture de l'imaginaire. Et pour moi, il y a absolument besoin de l'ensemble, il y a besoin de savoir tricoter l'ensemble. Il y a un problème si on est seulement dans l'écriture et dans la lecture de communication. Et l'intérêt des écrans et du type d'application que vous avez créé, il y en a d'autres, mais c'est de pouvoir aussi ouvrir des passages, des passerelles, ouais, des ponts pour aller de l'un à l'autre, savoir parler toutes les langues. En fait, c'est un petit peu ça la question qui est posée.
Alors,
aujourd'hui,
nous, on va bien parler de ceux qui lisent des livres, pas forcément des livres papier, hein, ça peut être sur une liseuse, sur un écran, mais en tout cas des histoires, des textes longs, des histoires, des romans, mais ça peut aussi être un livre qui apporte de la connaissance, un livre sur l'histoire, sur la géographie, que sais-je. Alors, ceci dit, on a des auditeurs qui nous disent c'est quand même de plus en plus difficile de voir des jeunes qui lisent, et pourtant il existe des initiatives qui peuvent ouvrir une fenêtre et laisser entrevoir ce dont vous parliez, Sylvie Vassallo, un autre monde, celui de l'imaginaire. L'association Lire et Faire Lire permet à des retraités de lire des histoires à des collégiens, car la lecture commence toujours par la voix. Luc, 70 ans, ancien cadre chez France Télécom et bénévole depuis plus de 10 ans. Chaque mercredi, il lit à voix haute au collège Pierre de Guetteur à Saint-Denis, dans une classe relais qui a accueille des élèves en échec scolaire. Alice Milo a glissé son micro parmi cette séance.
Un jour, le grand djinn décida de rassembler tous les oiseaux. Il les convoqua dans un endroit précis du ciel. Le premier arrivé fut l'épervier. Il s'était tellement dépêché et avait volé si vite pour répondre à l'appel de son maître que, chemin faisant, il en avait perdu son bec, ses yeux et son visage, et même ses pattes et ses ailes. Pour tout dire, il ne lui restait qu'une partie du squelette.
C'est toujours moi qui commence à lire, parce qu'en fait, l'important, c'est qu'ils entendent le récit. Et l'idée, c'est bien que moi, je partage mon plaisir à moi. Donc, je viens toujours avec des livres qui me plaisent à moi. Et je ne prends jamais des livres qui sont de leur âge, c'est-à-dire des livres comme Harry Potter, enfin, des livres pour adolescents. Je prends toujours des livres qui m'ont plu à un moment de ma vie et que je pense qu'ils leur apportent quelque chose de plus que ce que la littérature de leur âge. Avant cette séance, j'ai lu Le Poney Rouge de Steinbeck, un livre que je connais depuis très longtemps et qui m'avait beaucoup touché. Alors, qu'est-ce qui lui est arrivé à ce poney rouge?
Il est mort.
Ah, il est mort. Pourquoi est-il mort?
Il l'a laissé dehors. Au lieu de le rentrer quand il a plu. Pleuvait. Il est mort.
Et il est mort malgré tous les soins.
Et par exemple, l'histoire du poney rouge, est-ce que c'est un livre que tu aurais lu tout seul si quelqu'un n'était pas venu te lire l'histoire?
Non, j'aurais pas lu tout seul.
T'es en quelle classe?
Je suis en cinquième.
Et est-ce que tu as l'occasion de lire des livres?
Non. j'ai pas le temps, je fais mes devoirs. Après, ça saoule un peu. Et après, c'est tout. Après, je suis fatigué. Ça met des devoirs en plus.
Est-ce que tu as déjà lu un livre en entier ?
Non, jamais. Je faisais semblant, je disais à ma prof, ouais, est-ce qu'elle a lu ? Elle me disait, est-ce que tu as lu ton livre ? Je disais, ouais, mais derrière le livre, en fait, il y a un résumé. Je disais le résumé. Et je faisais croire que j'avais lu le livre.
Est-ce que tu as essayé quand même ou pas du tout ?
J'ai juste lu 2-3 pages. Après, j'ai arrêté. Et lire plusieurs phrases en même temps, c'est chaud pour moi.
Qu'est-ce que ça serait une histoire qui ferait que tu aurais envie de lire le livre jusqu'au bout ?
Je suis pas un manga. Mais même un manga, je lis pas tout. Je sais pas trop mon truc de lire. J'aime pas lire.
Est-ce qu'il y a des livres à la maison ?
Non, il n'y a pas de livres à la maison.
Personne ne lit ?
Non, personne. Peut-être parce qu'ils ont trop de boulot, tout ça. Ils doivent acheter à manger, préparer à manger, tout ça. Il y a ma mère qui travaille dans un magasin. Soit elle finit parfois à 21h, 22h, ou peut-être parfois elle travaille les dimanches, les samedis, tout ça.
T'as déjà été à la bibliothèque ?
Ouais, mais c'est pas pour lire. Il y a de la Play là-bas.
La PlayStation ?
Ouais.
Ah bon ? À la bibliothèque ?
Ouais.
Donc t'y vas pour ça ?
Ouais.
Dans ton téléphone, par contre, il y a de la lecture ?
Ouais. Bah, c'est que dans la vie, parfois je rappe. Ça veut dire que j'écris des textes, tout ça, je mets sur mon téléphone.
C'est toi qui as écrit ce texte ?
Ouais, c'est moi.
Et donc tu l'écris dans ton téléphone, sur le bloc-notes du téléphone ?
Ouais. Il y a des portes à casser, faut que tu viennes cagouler. Nous on prévient pas, on passe direct à l'action, c'était pas content. Il fallait renoncer, poser dans le bloc, en train de recompter, c'est délicat.
Alors c'est marrant parce que t'écris mais tu lis pas. Mais pourtant c'est lié l'écriture et la lecture quand même, c'est une source d'inspiration la lecture.
Ouais, mais pour moi c'est pas pareil. Parce que là, c'est du rap, ça veut dire je lis en même temps, je chante. Et ça c'est plus intéressant.
Donc le seul moment en fait où tu lis, c'est quand tu lis tes propres textes en fait.
Ouais.
Est-ce que tu penses dans ta vie d'adulte, un jour tu rentreras dans une librairie pour acheter un livre ?
Non, pas du tout. À part si j'ai des enfants, tout ça, mais je vais offrir des livres par exemple à mes enfants, mais moi je vais pas lire.
7 milliards de voisins, c'est maintenant !
Reportage d'Alice Milo. Pour en savoir plus et vous inspirer peut-être des initiatives de l'association Lire et Faire Lire, vous pouvez aller sur le site lireetfairelire.org. Sylvie Vassallo, vous êtes directrice du Salon du Livre de Jeunesse à Montreuil. Vous connaissez bien aussi ces enfants pour qui le livre est quelque chose d'assez inconnu.
Oui, alors quand on lit les statistiques, on se rend compte qu'il y a quand même énormément d'enfants qui déclarent aimer lire et passer du temps à lire. Et pour autant, il y a quand même énormément d'enfants et de jeunes pour lesquels ça reste quelque chose de difficile. Et pour votre auditeur, on entend à quel point c'est aussi quelque chose de douloureux, cette difficulté de rapport au livre et à la lecture. C'est une douleur qui est assez invisible. Ça se voit pas sur le visage, ça se voit pas non plus directement dans les pratiques, parce que ça se passe souvent à la maison. Et on entend aussi à quel point la question du temps, la question de l'école, la question de l'apprentissage de la lecture, puisqu'il dit en fait, j'arrive pas à lire 2-3 phrases l'une après l'autre.
C'est un constat qui est très dur, très conscient. Hein,
qui est conscient et en plus, ce qui est encore plus dur là, c'est qu'il aime écrire. C'est-à-dire qu'il y a une vraie conscience aussi de la langue et de l'importance de la langue et du jeu avec la langue, ce qui est le cas
de l'envie de s'exprimer.
Et de l'envie de s'exprimer. Et c'est vrai que dans un cas comme celui-ci, le type d'initiative que vous avez souligné, le fait qu'il y ait de la lecture à haute voix, les bibliothèques également, un salon comme le nôtre, ça peut être un lieu de déclic parce qu'on va rencontrer des auteurs. Donc, ouais. Quelqu'un qui...
Des jeux vidéo dans une bibliothèque, puisque c'est de ça que parlait ce collégien, est-ce que c'est une bonne idée ou pas ?
Moi, je trouve que c'est une très bonne idée parce que les bibliothèques permettent de recevoir l'ensemble des pratiques des publics. Ça me semble être un des lieux de rapport à la culture important. Puis dans les jeux vidéo, il y a de l'écriture et de la lecture aussi. Hein. Il y a des jeux vidéo qui sont très scénarisés et qui amènent aussi ce rapport à l'imaginaire.
Est-ce que les filles et les garçons ont un rapport très différent à la lecture ? Quand je parle de la lecture, vraiment la découverte d'un texte un petit peu long.
Surtout au moment de l'adolescence, en fait. C'est-à-dire que vers la cinquième, quatrième, il y a une sorte de fracture qui s'opère et les adolescents passe vers des pratiques plus collectives. Les filles, alors là, on est toujours dans les statistiques. Hein, y a beaucoup de choses qui pourraient faire mentir ce que je dis, mais les filles sont davantage gardent davantage cette pratique de lecture individuelle à la maison sur des textes longs.
Dans un monde qui va toujours plus vite, vous avez eu envie cette année de faire l'éloge de la lenteur grâce à la lecture. C'est le meilleur moyen de ralentir, en effet.
Oui, grâce à la lecture. Alors en fait, plus précisément, on a eu envie, de, comme chaque année, de permettre aux enfants et aux jeunes de s'intéresser à un gros sujet de société, cette question du ralentissement, de l'urgence de ralentir pour nos vies, pour la planète. Et la littérature de jeunesse, c'est une bonne occasion de le faire, à la fois par ses contenus et également par le rapport aux auteurs qui explique le temps long de l'écriture et le rapport à la lecture qui est obligatoirement un temps long parce que pour lire, il faut pouvoir se poser, se mettre dans une bulle et s'extraire du temps et de la vitesse du temps de la société.
Les adolescents, quand ils discutent avec des auteurs, parce qu'il y a beaucoup de rencontres avec des auteurs au salon du livre de jeunesse, ils leur demandent comment vous écrivez des histoires et ils sont toujours très surpris quand les écrivains racontent à quel point c'est lent d'écrire même une page.
Oui, ils sont surpris déjà de voir que les écrivains sont des gens tout à fait normaux. Il y a un peu cette idée quand même dans l'imaginaire des enfants et même des jeunes que les écrivains, c'est mort, quoi. C'est-à-dire que c'est l'image qu'ils ont peut-être à cause aussi de ce qu'on apprend à l'école dans la littérature. Donc, ils sont assez choqués de ça. Alors quand c'est un écrivain jeune, encore plus. Et puis de voir que c'est un métier, oui, si difficile, que c'est des gens qui ont envie de raconter quelque chose et qui prennent un soin énorme pour le faire. Et quand on écrit pour les enfants et pour les jeunes, ce soin est d'autant plus important qu'il faut une grande clarté dans le propos et dans la langue. Et c'est vraiment très très souvent des moments très très émouvants, je suis certaine. On ne peut pas le mesurer, mais je suis certaine que ça crée énormément de déclics chez les enfants.
Ouais, de lecture, justement, de rencontrer ceux qui ont ce don de l'écriture, de raconter des histoires. Vous, Carole Fogassi, comment vous avez reçu le témoignage qu'on a entendu, le reportage de Lire et faire lire de ce jeune garçon qui dit « Non, la lecture, c'est pas pour moi ».
Alors moi, je rejoins déjà complètement tout ce qui a été dit par Madame Vassallo et puis je compléterai par un témoignage d'un autre garçon, un peu plus jeune, qui s'appelle Noah, qu'on a rencontré à Palaiso, au salon Startup for Kids, et qui disait « Mais moi, la lecture, c'est pas mon monde ». Je connais pas. Et puis on lui dit, mais d'accord, mais alors qu'est-ce que tu viens faire sur notre stand, parce que nous on fait de la lecture. Et il me dit, j'ai vu des tablettes, donc je me suis dit que c'était un jeu vidéo, je vais regarder. Je dis, non, nous on fait
déception.
De la lecture. Alors il y a une grosse déception, il commence à s'en aller. Je dis, mais attends, mais Noah, si tu t'en vas, le livre il va mourir parce qu'il ne peut pas vivre sans toi. Et là il me dit, ah bon. Et il s'assoit derrière la tablette, il commence à lire. Les parents dépités derrière me disent, non, mais c'est pas contre vous, hein, c'est sûrement super ce que vous avez fait, mais il s'arrêtera pas, il va partir. L'histoire devait mettre 5 minutes, c'était une durée de 5 minutes de lecture. Il est resté 7-8 minutes, à la fin il nous a regardé, il dit, je voudrais avoir l'histoire d'après. Et les parents disent, mais vous avez réussi à le faire lire, comment vous avez fait? Et en fait, c'est là où je trouve formidable votre démarche du SLJP de démystifier d'une certaine façon le rapport avec les auteurs et avec la lecture. Ça permet aussi de montrer que non, les auteurs ne sont pas des gens morts, comme vous le disiez, et que non, le livre n'est pas que du livre papier et n'est pas que un format qui n'est pas vivant. Et c'est aussi notre démarche avec Lulu et Creuil de mettre des histoires à lire sur des téléphones et des tablettes pour montrer qu'on ne peut pas systématiquement renvoyer dos à dos l'un et l'autre, mais qu'on peut les concilier de manière à ancrer le geste de la lecture chez les jeunes.
Comment ça marche exactement alors ? C'est quand même un peu le principe de la série qui vous tient en haleine. Vous avez repris un peu le code marketing de tout ça.
Alors certes, il y a un côté marketing, comme vous le soulignez. Il y a également un côté tout bête qui est celui du temps. La temporalité est différente avec un livre. Ça met du temps à écrire, ça met du temps à lire. Et ce temps-là permet aussi de créer dans le livre une bulle, un havre de paix, qui permet de sortir de la course effrénée du monde. Et nous, on orchestre cette attente. C'est un apprentissage de la frustration, mais positive, à la manière d'une série, avec un épisode tous les jours, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, qui vient compléter une saison, qui elle vient de compléter une série.
Sauf que rien n'est complètement défini.
Et rien n'est complètement défini.
À la différence d'un livre.
Alors, il faut, je prends 30 secondes pour remettre dans le contexte. Repas de famille, ma cousine qui a la trentaine me dit, je n'arrive pas à faire lire mes enfants, qui sont mes neveux. Je leur mets un bouquin dans les mains, ils râlent et ils passent leur vie sur une tablette. Ok, très bien, comment on peut résoudre ce sujet? Et puis en creusant, on s'est aperçu qu'il y avait un sujet de fond. Et avec mes associés, Lucas et Maxime, on a développé ce système qui est un système de lecture interactive. Au fur et à mesure de la lecture, on pose des questions au lecteur. Et suivant sa réponse, la suite du récit change. Elle change de deux manières. Elle change dans le fond, on modifie le scénario, et elle change dans la forme. On est capable d'adapter la complexité du texte à l'aisance de lecture de l'enfant. Toujours dans la démarche, et ça revient au témoignage du jeune qu'on vient d'entendre, lire trois phrases en même temps, c'est compliqué, mais si ce sont trois phrases qui sont trois phrases simples, sujet, verbe, complément, ce n'est pas la même chose qu'une phrase avec des incises, des subordonnées, des adverbes et... enfin, toute une série de compléments du nom qui complexifient toutes ces phrases-là. L'idée n'est pas de brader un style, mais de faire en sorte qu'il y ait une progression, de manière à ce que des jeunes qui aujourd'hui utilisent notre application, demain, achètent des livres en librairie.
Ça veut dire que les enfants de 8 à 12 ans qui lisent Lulu et Croy, personne ne va avoir exactement la même version, finalement.
Exactement. Et si vous avez différents frères et sœurs, vous pouvez faire le test. C'est conçu de manière à s'adapter à chacun.
Comment c'est fabriqué ?
Alors, il y a toute une machinerie mathématique, informatique derrière, puisque nous sommes deux ingénieurs à avoir monté ça quand nous étions en études.
Mmh. Ouais, quand on dit que les ingénieurs ne lisent pas, c'est complètement faux.
Ouais, c'est complètement faux, et bien sûr. Mais c'est amusant parce qu'il y avait un colloque international autour de la science en français vendredi dernier à l'Académie française. Et en faisant l'histoire des grands scientifiques, on s'aperçoit à chaque fois que ce sont de grands littérateurs. Et à commencer par l'encyclopédie, les Diderot, les D'Alembert, les Voltaire. Mais même encore aujourd'hui, regardez Antoine Compagnon, qui a une chaire de littérature et un ancien élève de l'école polytechnique, un scientifique.
Donc Lulu, c'est Nelgeman qui explique ça.
C'est ça. Alors, Lulu et Croy, donc c'est de l'algorithme à la base.
Pour, exactement.
Pour que le scénario puisse bouger en fonction de l'interaction du jeune lecteur.
Exactement, c'est un algorithme. Alors, en mots faciles, c'est un processus informatique qui permet de produire du texte, de comprendre les réponses et de produire un texte qui répond de façon intelligente. Donc, de façon à ce que tout l'ensemble du récit soit cohérent. Ça, c'est intéressant à deux points de vue. C'est intéressant parce que déjà, ça vous permet d'avoir un scénario qui est le vôtre et donc ça engage davantage le lecteur. Et c'est exactement avec l'histoire que je vous racontais à propos de Noah tout à l'heure. Le livre vit grâce et avec lui. Il y a un lien, il y a un dialogue qui se fait. Et puis ensuite, c'est intéressant d'un point de vue purement technique, d'un point de vue de la lecture, puisqu'on permet de faire progresser l'enfant.
Et qui sont les auteurs? Qui écrit les histoires?
Aujourd'hui,
ce sont des auteurs de littérature de jeunesse? Ce sont des professionnels de l'écriture?
Alors, effectivement, nous collaborons avec cinq auteurs. Celui que j'ai en tête, par exemple, Peter Baird, qui a écrit notamment des Garfield et des Foot de rue. On donne aussi leur chance à des auteurs qui se lancent dans l'édition jeunesse, dans la littérature jeunesse. Je pense à Pierre Letrain, avec qui on travaille aujourd'hui. Nous ne sommes pas des professionnels, c'est pourquoi nous nous sommes entourés de professionnels. Aujourd'hui, nous travaillons avec une psychologue spécialisée de l'enfance qui est en milieu hospitalier et qui a également son cabinet pédiatrique, Céline.
Pourquoi une psychologue?
Et bien parce que pour nous, c'était important de ne pas dire de bêtises, de répondre aux invariables de la littérature jeunesse.
Ah oui, mais quand même, la liberté de l'écrivain. Là-bas, un écrivain, quel qu'il soit, qu'il écrive pour la jeunesse ou pour l'humanité tout entière, il n'a pas besoin des conseils d'une psychologue, non?
Alors, c'est pas une question d'avoir besoin ou de ne pas avoir besoin. Déjà, il y a une charte éditoriale qu'on se doit, en tant qu'éditeur, de donner, ne serait-ce que pour aiguiller l'auteur. Et puis ensuite, il y a une autre démarche, c'est qu'on n'est pas dans une démarche de « je te donne des conseils, tu m'écoutes, j'ai la science et tu fais ce que je te dis ». C'est une démarche collaborative dans laquelle chacun apporte une pierre à l'édifice pour qu'à la fin, tout simplement, le bâtiment soit construit au cordeau.
Sylvie Vassallo, j'aimerais bien avoir votre avis sur ce type de produit, parce que ça va un peu à l'encontre de le voyage littéraire, hein, de celui qui nous raconte une histoire qu'il a décidée lui-même et dont on ne connaît, qui la maîtrise. Et justement, on est embarqué dans ce bateau-là, mais on ne sait pas où on arrive, à quel port on va arriver. Là, c'est un peu le contraire.
Oui, c'est un peu le contraire. Ça tient aussi compte des pratiques des enfants et des jeunes d'aujourd'hui, qui sont les pratiques du numérique et de l'interactivité du numérique. En fait, moi, j'ai tendance à penser qu'il ne faut pas opposer les choses les unes aux autres et que chaque lecteur est différent, chaque enfant est différent, et que plus on démultipliera les formes d'accès à la lecture et à la littérature, mieux on
exactement.
Se portera.
Exactement. Et puis, on peut aimer jouer aux jeux vidéo et lire des livres, et lire des livres interactifs comme le vôtre, et puis lire des livres
et
tout
puis,
court.
En vous écoutant, je pensais à une chose qu'on fait au salon cette année. C'est marrant parce que c'est un prénom qui est un petit peu proche. On travaille avec une société d'informatique et de communication, et avec eux, on est en train de programmer un robot humanoïde, c'est le petit robot Nao qu'on va appeler Looping, pour aller proposer la lecture à des enfants qui sont en difficulté également de lecture. Et le robot, là, en fait, il est une sorte d'intermédiation entre le livre et l'enfant. Donc là, ce sont des livres classiques sur papier, etc., qui sont lus, mais le robot va servir d'intermédiation. Donc moi, je suis pour la démultiplication des formes. Et c'est ce que je disais tout à l'heure. La question pour moi, c'est de savoir passer d'un espace à l'autre. Parce qu'un livre entièrement écrit par un écrivain de bout en bout qui va réussir à vous obliger à tourner les pages au rythme où lui a décidé que vous les tournerez, qu'il fallait les tourner pour que l'histoire fonctionne, etc., qui va vous imposer sa langue et son rythme, c'est également quelque chose de très important dans la construction de l'imaginaire des enfants. Et cette linéarité du récit, elle est très importante. Hein, on entend beaucoup aujourd'hui dire que les enfants qui sont sur les écrans, certains enfants qui sont sur les écrans ont un problème de concentration et de linéarité de la pensée. Et on voit bien à quel point la linéarité de la pensée, c'est important pour vivre dans la société actuelle. Donc pour moi, il y a vraiment besoin des deux et de créer les passages entre les deux.
Oui, bah c'est pour ça que vous êtes là d'ailleurs, tous les deux. Et bien sûr, on vous donne la parole, les voisins, les voisines, où que vous soyez dans le monde. Si vous aimez la lecture, si vous avez envie de faire découvrir la lecture autour de vous, pour les jeunes, que lisent les jeunes aujourd'hui? Vous nous appelez au 33 1 84 22 71 71.
7 milliards de voisins. Et aujourd'hui, on dit quoi?
Et on accueille une voisine qui est à Ouagadougou. Bonjour Aïssa.
Bonjour Emmanuel.
Aïssa, vous avez 21 ans et vous avez dit au Standard que vous lisez depuis très très jeune.
Oui.
C'est-à-dire, à quel âge vous avez découvert la lecture, Aïssa?
J'ai découvert la lecture à travers le livre de CP1, déjà quand j'étais au primaire. Avec mon père, il aimait me faire lire. Et bien, j'ai découvert à travers ça.
Et aujourd'hui, vous lisez à quelle fréquence?
Je peux lire un à deux livres par mois. Mais actuellement, avec le campus, je n'ai pas autant de temps pour lire.
Oui, vous êtes étudiante à l'université de Ouagadougou. Mais qu'est-ce que vous aimez lire, Aïssa?
J'aime lire du tout. Des romans, des BD, du théâtre.
Oui. Comment vous choisissez vos livres?
Ben, souvent, par le conseil d'amis.
Oui.
Et des fois, à travers les petites tests qu'on lit en classe. Donc, si je vois que le test me plaît, ça m'intéresse, je vais et je cherche le livre.
Aïssa, vous êtes une vraie lectrice, hein, parce que vous lisez plusieurs romans par mois. Qu'est-ce que vous ressentez, par exemple, quand vous arrivez à la dernière page du roman?
Je suis contente parce que j'étais dans un autre monde. Ça me soulage, en fait, de plus qu'autour, en commençant la lecture, tu ressens cette envie de connaître la fin, de voir comment se terminera l'histoire. Donc, à la fin, tu te sens soulagée, heureuse d'avoir su comment ça s'est terminé.
Aïssa, qu'est-ce que vous diriez à vos amis qui vous écoutent et qui comprennent pas forcément ce que vous ressentez quand vous lisez?
Bon, je comprends même pas comment est-ce qu'on arrive à ne pas lire.
Ah oui, c'est ça, vous êtes comme notre auditeur du début de l'émission. Comment est-ce possible de ne pas lire? Mais on peut vous renvoyer la question dans l'autre sens, ouais.
Parce que dès que tu commences à lire, tu te sens transporté, tu te sens dans un autre monde. Donc, j'essaie de lire, c'est intéressant de lire. Ça te permet d'oublier tes soucis. Bon, un peu comme ça.
Bon, ben merci Aïssa en tout cas pour nous avoir fait partager ce plaisir-là. Moi, je ne suis pas d'accord sur la dernière page du roman. Hein.
Oui, c'est vrai.
Hein, moi, je suis terriblement détresse. Mais comment c'est possible que ça soit fini, cette histoire-là?
Et oui, il y a une petite fille, là, en préparant le salon, on parlait de l'éloge de la lenteur. Il y a une petite fille qui a dit à son papa, en fait, pour moi, la lenteur, c'est quand je ralentis ma lecture pour ne pas arriver à la fin.
Oui, c'est ça.
Donc, c'est vrai que cette question de la fin du livre, c'est quelque chose de... Voilà, c'est quelque chose de très personnel. Et puis peut-être ça dépend des ouvrages.
Exactement.
Parce que parfois, on continue de vivre la suite de l'histoire. Ça dépend comment ça se termine.
Merci en tout cas à vous, Aïssa. Très bonne journée à Ouaga. Et on accueille un autre voisin qui nous appelle au 33 1 84 22 71 71. Senkoune est à Conakry en Guinée. Bonjour Senkoune.
Bonjour Emmanuel Bassid. Je suis algérien coréen.
Ouais, alors vous êtes étudiant, hein, vous avez 28 ans et vous avez monté un club littéraire au sein de l'université il y a un an. Mais ce n'est pas seulement pour lire entre étudiants, si j'ai bien compris, c'est aussi pour aller dans les collèges, dans les lycées.
Ah oui, effectivement, Emmanuel Bassid, comme je le rappelais, on a mis sur place le 3 mars 2018. Et c'était pour d'abord épauler les structures de l'université, mais dans le règlement, on avait décidé quand même d'aller aussi vers les plus petits, les jeunes, afin de les initier beaucoup plus à l'écriture poétique ou romanesque ou du slam aussi. Hein. Donc on travaille beaucoup dans ce sens-là.
C'est,
on va
vers c'est intéressant ce que vous dites, parce que finalement, c'est par l'écriture qu'on peut faire entrer dans la lecture. Ça peut sembler moins difficile de faire écrire aujourd'hui, surtout si on parle de slam, de rap.
Ah oui, bien sûr. C'est souvent, il y en a qui ont du mal à s'adapter avec l'écriture ou la lecture à un certain moment, mais lorsque vous les initiez, que vous les accompagnez, vous leur montrez les méthodes, ils vont s'y habituer parce que, par exemple, dans notre règlement, titre 2 et l'article 7, on dit que tout ce qui veut l'intégrer d'abord, à la première des choses, c'est de faire l'exposé sur un roman passionne beaucoup plus. Donc ça, c'est une façon de le pousser à lire. Et finalement, ça...
Ça, c'est la pratique des clubs de lecture. Ça fonctionne toujours, Sylvie Vassallo?
Oui, ça fonctionne toujours.
Et sauf que ceux qui viennent, ils aiment déjà un peu lire quand même, non?
Bah, souvent, mais on peut aussi amener des copains. Amener des amis. Je pense qu'il y a quelque chose... Enfin, moi, ce que je vois évoluer aussi dans les clubs de lecture, c'est que justement, les smartphones, les vidéos, enfin, toute cette dimension multimédia peut permettre d'animer des clubs de lecture un petit peu différents, ou des radio-lectures. Mmh. Et ça, je pense que ça peut permettre d'associer des jeunes qui sont peut-être des rapports à la lecture un peu différents.
On peut venir avec juste son smartphone et dire bah voilà, je vais vous lire le slam que j'ai écrit. Pas besoin non plus d'avoir lu 300 pages pour pouvoir avoir sa place dans un club de lecture.
Oui, il y a quelque chose qui a pas mal changé les choses, c'est toute la dimension internet et blog. Il y a eu beaucoup de jeunes qui étaient plus ou moins des lecteurs, mais qui, par le biais de se filmer et de raconter leur lecture...
Beaucoup de filles, hein, quand même.
Des filles, quelques gars. Mais c'est vrai que cette pratique-là, elle a quand même un peu démultiplié plus les plateformes d'écriture. C'est-à-dire qu'il y a quand même beaucoup de choses avec le numérique qui permet de démultiplier ce rapport à la lecture
et à l'écriture. C'est un nouvel accès à l'édition, finalement, hein, Internet. Oui. Enfin lu et peut-être même d'être compris, qui sait, et reconnu. On redonne le numéro de téléphone du standard, comment donner le goût de la lecture aux enfants, aux adolescents. 33 1 84 22 71 71. Bernard est en ligne avec nous. Bonjour.
Oui, bonjour Emmanuel.
Bernard, vous êtes à Kinshasa, vous avez 23 ans, vous êtes étudiant. Alors où est-ce que vous en êtes pour la lecture?
Oui, pour moi, la lecture m'a beaucoup inspiré. J'aimais beaucoup lire quand j'étais encore tout petit et j'ai compris que la lecture m'avait beaucoup inspiré. J'aimais donner beaucoup à lire des bouquins. Comme j'aimais beaucoup la science, et aussi surtout la science biomédicale, j'avais trait à la vie. Et cela m'a inspiré aujourd'hui de faire les sciences pharmaceutiques, à partir de la lecture.
C'est ça. Mais donc plutôt de la littérature scientifique, des livres scientifiques?
Oui, j'en ai lu autant. J'aimais beaucoup les Français. Et si je me mettais à lire, même quand j'ai fui aux humanités, j'ai lisais sans défaut. Parce que je me donnais beaucoup à la lecture et ça m'avait beaucoup inspiré.
Eh bien, merci beaucoup Bernard et merci aussi à Senkoune pour son initiative au sein de l'université du cercle littéraire à Conakry. On va donner la parole à une voisine que nous connaissons, Tchonté Siloué. Vous êtes en ligne avec nous en Côte d'Ivoire, à Abidjan. Bonjour Tchonté.
Oui, bonjour Emmanuel.
Vous avez créé en Côte d'Ivoire le centre Ulysse. C'est une bibliothèque pour les jeunes dans le quartier populaire de Yopougon à Abidjan. Oui. Comment vous avez été amenée à ça? Vous avez eu pas mal de livres à la maison?
Oui, j'ai grandi avec les livres parce que mes parents m'en achetaient très souvent. Et en année de master, je me suis intéressée à la question de l'éducation. Donc j'avais envie d'avoir une éducation plus active, plus interactive pour les jeunes. Et donc j'ai eu envie d'ouvrir une bibliothèque qui permettrait d'avoir des activités autour du livre, mais qui donnerait surtout aux enfants l'envie d'apprendre.
Ouais. Comment on fait quand on veut ouvrir une bibliothèque à Yopougon? Faut des livres?
Oui, bien sûr, faut des livres. Alors j'ai commencé avec des livres que j'ai achetés dans les librairies par terre, les librairies de rue. Mmh. Et ensuite, lorsque j'en ai parlé sur les réseaux sociaux, étant donné que je suis blogueuse littéraire, on me connaissait déjà dans le domaine, ouais, j'ai reçu pas mal de livres de personnes qui me suivaient.
Et ensuite, comment ça a démarré? Est-ce que l'engouement a été au rendez-vous tout de suite chez les enfants et les adolescents?
Oui, alors au début déjà, on voulait l'ouvrir pour tout le monde, les adultes comme les enfants, mais on s'est rendu compte que ce sont les enfants qui étaient le plus intéressés. Parce qu'eux, ils découvrent encore, ils n'ont pas d'autres loisirs, donc c'est plus facile de les amener à aimer la lecture. Et ils adorent surtout le fait qu'il y ait d'autres activités autour du livre. Ce n'est pas juste le livre. On les amène par exemple à faire des activités artistiques, à faire des sorties où on va lire par exemple le jardin botanique. Et c'est ce genre de choses qui les intéresse.
Ah oui, c'est ça. Donc on va lire sur le lieu que l'on visite par exemple.
Exactement.
Et qu'est-ce que ça change?
Alors ce qui change, c'est qu'ils ne voient plus la lecture comme quelque chose d'ennuyeux, quelque chose de très académique. Parce que généralement quand tu leur dis lecture, ils pensent école. Donc là, on essaie de les mettre dans un environnement différent pour qu'ils se disent que la lecture est amusante.
Ouais. Alors, ça marche par abonnement. Hein. Il faut payer soit au mois, soit à l'année, c'est ça?
Exactement. Ils payent 1 000 francs le mois, 10 000 francs l'année ou juste 100 francs l'heure.
D'accord. Donc, 1,50 € pour un mois, 15 € pour l'année. J'en profite d'ailleurs pour m'adresser à vous, Caroy Fogarassi, pour votre application que vous nous avez décrite tout à l'heure avec du livre interactif. Hein. Oui. Ça fonctionne. Ce n'est pas une application gratuite, malheureusement, pour le moment.
Alors, l'application est gratuite. Et vous avez les premiers épisodes qui sont gratuits. Après, si vous voulez davantage de contenu, il faut prendre l'abonnement. Donc, à partir de janvier, 6,90 € au mois ou 49,90 € à l'année.
Ouais. Je voudrais vous poser la question à tous les trois, puisque vous réfléchissez, vous travaillez beaucoup sur toutes ces questions de la lecture, de l'accessibilité de la lecture. Qu'est-ce qu'il faudrait pour mener une vraie politique publique, faire découvrir la lecture aux enfants et aux adolescents dans votre pays, la Côte d'Ivoire, Tchonté Siloué?
Alors, chez nous, il faut déjà mettre les livres à proximité des enfants. Parce qu'on se rend compte qu'on dit aux enfants que c'est important de lire, mais ils n'en ont pas du tout. Par exemple, on a fait des ateliers à l'intérieur du pays pour amener les enfants à lire. Et on s'est rendu compte que c'est important de leur envoyer des livres après ces ateliers-là pour qu'ils fassent des clubs de lecture. Les enfants peuvent, s'ils n'en ont pas autour d'eux, bah, ça ne viendra jamais.
Oui, c'est sûr. C'est sûr que dans les villages, les enfants ont tout juste suffisamment de manuels scolaires. Donc, le livre, c'est quelque chose de relativement inaccessible. Sylvie Vassallo, pour vous, aujourd'hui, comment vous avez vu évoluer le salon du livre de la presse jeunesse et de la littérature de jeunesse en pratiquement 35 ans? Qu'est-ce qui manque encore pour finalement tenir la route face à toutes les autres occupations qu'ont les jeunes?
Alors, ça va peut-être vous paraître curieux, mais je pense que nous, là, actuellement, on est dans une phase où l'édition jeunesse est en surproduction totale. Et en tout cas, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de livres qui paraissent. Et c'est en train d'engorger les circuits de distribution classique du livre, et notamment le travail des bibliothécaires et des libraires. Il y a une rotation des livres qui est vraiment trop importante. Ça, c'est peut-être un problème de ce côté-là.
Ouais, ça semble un peu fou, hein, que surtout quand on vous écoute du continent africain.
C'est ça. C'est pour ça que
trop de production. Oui, on écrit trop de livres, on en publie trop.
On en publie trop, du coup les auteurs se paupérisent également parce qu'ils sont dans une rapidité d'écriture qui n'est pas exactement celle dont on aurait besoin pour la qualité des ouvrages. Et ceux qui sont à la réception des ouvrages, nous on a créé un site internet là, exprès pour ça, qui s'appelle keybooking.fr, parce qu'on se rend compte qu'il y a à peu près 9000 à 10000 nouveaux titres par an et tout le monde se demande quoi lire. Donc il y a cette question-là qui est posée. Et puis en termes de public, je pense qu'il y a un endroit où les politiques publiques sont encore beaucoup trop absentes, parce qu'on est quand même dans un pays où la politique publique de la lecture est forte à tous les étages.
Mais il y a des bibliothèques municipales
voilà,
partout.
Il y a deux endroits quand même où peut-être il y a des gros efforts à faire. Le premier, c'est dans les accueils de loisirs des enfants, parce que dans les accueils de loisirs des enfants, il y a quand même peu de bibliothèques ou peu de pratiques autour du livre. Et puis, dans les quartiers les plus prioritaires de la politique de la ville, où... il y a des difficultés d'accès aux livres pour des questions de difficultés de lecture ou des questions de difficultés sociales et de prix du livre, etc., qui restent quand même posées, y compris chez nous.
Caroy Fogarassi, avec cette application que vous avez créée, vous visez peut-être plus loin que la France, le monde le francophone.
Alors, exactement. Alors, un mot juste avant sur la politique de lecture. Effectivement, et ça passait aussi par les médiathèques, qui ne sont plus des bibliothèques, mais des médiathèques avec des supports multimédia. On travaille avec Albert Camus à Évry en ce moment, qui ont des différents canaux pour propager cette lecture-là. Ça passe aussi par les acteurs privés, comme nous, qui offrons notre abonnement jusqu'à Noël. Voilà, c'est notre cadeau de Noël, donc le prix étant aussi un argument d'accès. Et puis, pour répondre à votre question, effectivement, nous, on travaille aujourd'hui de manière non géographique, puisqu'il suffit d'avoir un téléphone pour accéder à nos histoires, à nos contenus. C'est pourquoi nous, on veut faire de la littérature pour tous et on se développe au travers de la francophonie. J'étais particulièrement marqué par un voyage que j'ai fait cet été au Togo. D'ailleurs, je salue mes amis de l'ONG UJPod, s'ils nous écoutent.
Bon, alors il faudra revenir nous en parler. Mais oui, non, mais ça, on l'a bien compris. Il y a un besoin de lecture là-bas. Donc, on va donner le nom de l'application Lulu et Croy, disponible à partir d'un simple téléphone portable. C'est de la littérature interactive. Merci à vous, Sylvie Vassallo. Le Salon du Livre de Jeunesse, de la presse et de la littérature de jeunesse, ça commence mercredi à Montreuil, en région parisienne. Merci beaucoup à tous les deux d'être venus. Et merci aussi à Chanté Lucilué d'avoir été en ligne avec nous. Dans quelques instants, la chronique du psychologue Ibrahima Giroud.
On est plus le fils de son époque que le fils de son père.
Parents, enfants, d'ici et d'ailleurs.
Parents, enfants d'ici et d'ailleurs, une nouvelle série de chroniques, toujours avec le psychologue Ibrahima Giroud. Bonjour Ibrahima Giroud.
Bonjour Emmanuel.
Vous êtes sénégalais, vous travaillez pour l'UNICEF à Dakar et vous avez travaillé sur la psychologie des enfants et la parentalité. Et aujourd'hui, quel type d'éducateur êtes-vous? Vous allez nous expliquer qui sont les parents qui décadrent.
J'ai vu dans mes consultations une forte transition dans la façon pour les parents de donner de l'affection. On dit plus facilement « je t'aime » aujourd'hui comparé avant où c'était un peu plus diffus. Et c'était une façon pour ces parents-là de réagir à la façon dont eux-mêmes ont été éduqués. Je les entends bien me dire « je me suis juré de ne jamais éduquer mon enfant comme moi-même j'ai été éduqué ». Donc ils disent beaucoup plus facilement « je t'aime ». Mais vous savez, comme on dit, quand on quitte un extrême, on va plus facilement vers un autre.
Ah bon?
Alors, certains de ces parents éprouvent beaucoup de difficultés à fixer du coup clairement les règles à leurs enfants, les règles qu'il ne faut pas franchir, et ouvrent la brèche du oui à tout. Très difficile à refermer. Dans leur attitude hyper permissive, le oui l'emporte. De fait, même s'ils disent non, en réalité l'enfant entend oui, je peux quand même le faire. Et très rapidement, le parent est pris au piège et l'enfant refuse que l'on change les règles du jeu. Pour justifier leur approche, ses parents évoquent souvent la modernité. Mais l'enfant, en réalité, sait très bien s'il s'est mal comporté et si, le cas échéant, il mériterait d'être tenu rigueur de cela. Et si le parent ne réagit pas en fonction de la gravité de la faute, il envoie en réalité à son enfant un très mauvais signal sur sa personnalité et sur ses faiblesses. Ainsi, donc, l'enfant le trouve très cool au début, mais en fait, il voit très facilement les faiblesses du parent. Et ce n'est pas facile de respecter un parent qui est faible. Oui. J'aime beaucoup le proverbe oriental qui dit « Aidez vos enfants à vous respecter et à vous aimer. soyons clairs, la faiblesse peut inspirer de la pitié, mais pas du respect.
Mais alors, du coup, quelles sont les conséquences de cette approche parentale ?
On peut voir ces conséquences sur trois niveaux. D'abord sur les parents eux-mêmes, sur les enfants et sur les petits-enfants. Sur les parents, c'est quand même la détérioration de l'image et de l'estime de soi et le risque de se voir déprécié par ses propres enfants quand on est faible. Sur l'enfant, on peut également noter l'absence en réalité de modèle clair pour servir de modèle par défaut quand cet enfant-là aura à éduquer à son tour des enfants, puisqu'il ne peut pas se référer à un modèle très clair qui lui aurait été donné par ses parents, et le besoin d'aller chercher un autre modèle à l'extérieur sans aucune garantie que ce soit le bon modèle. Et enfin, sur les petits-enfants, parce que les mauvaises pratiques traversent les générations, traversent les âges, mais traversent également les continents.
Oui, parce que les histoires familiales se transmettent. Alors, est-ce qu'il y a des solutions concrètes pour aider les parents qui se sont retrouvés, comme vous le disiez, un peu pris au piège d'une éducation très permissive, très décadrante, comme vous dites ?
Une des premières choses, c'est qu'on a besoin des autres pour reconstruire la confiance en soi. Donc, je les encourage à resserrer les liens familiaux avec la famille élargie pour ne pas se retrouver seuls. En milieu urbain, je les encourage à participer à des groupes de discussion et à apprendre des expériences des autres et à oser essayer de nouveaux modèles, essayer de nouvelles choses jusqu'à ce qu'on trouve la solution qui nous convient. Une chose à éviter, c'est de raconter ces difficultés à tout le monde.
Ah bon ?
Ça n'aide pas du tout et cela risque de renforcer votre mal-être, même si à court terme, ça fait du bien de faire l'objet de l'attention des autres. Mais à long terme, ce n'est pas payant, vous êtes seul au final dans vos difficultés. Donc il faut avoir quelqu'un de confiance en qui on peut parler, dont on peut suivre les conseils plus facilement.
Ibrahima Giroud, en fin de chronique, vous nous proposez, comme chaque semaine, une question à méditer pour les parents et là, à l'attention des parents qui décadrent trop leurs enfants.
Au regard des défis importants qui sont liés à la transformation rapide des familles, notamment en milieu urbain, je vais poser la même question que celle qu'avait posée la grande royale dans l'aventure ambiguë de Charmé Ducan. Ce que l'on gagne, vaut-il vraiment ce que l'on perd ?
Ce que l'on gagne, vaut-il vraiment ce que l'on perd ? Avec un grand point d'interrogation à méditer. Et bien sûr, toutes vos chroniques, Ibrahima Giroud, sont à retrouver en podcast. Parents, enfants, d'ici et d'ailleurs, sur toutes les plateformes de téléchargement. Vous avez aussi publié sur Internet « Développer l'intelligence de votre bébé ».
Alors, on dit quoi ?
Alors, on dit quoi ? C'est très simple, c'est la visite de la voisine comme chaque vendredi. Bonjour Diarran Diaye.
Bonjour Emmanuel.
Alors, on dit quoi aujourd'hui au menu pour demain dans l'émission ?
Alors, au menu d'Alors on dit quoi ? Eh bien, rigoler. Rigoler, c'est excellent pour la santé et ça constitue entre autres un bon antidote contre le stress. Alors, nous allons déstresser en nous plongeant au cœur des univers d'humoristes à l'instar de Calvin et Othman.
C'est l'entourage dans lequel on a grandi. Ça veut dire que ça soit, ça peut être des tantes, des voisins, ça peut être de tout, vraiment. C'est l'ambiance dans laquelle on a grandi. On a une chance, c'est d'être en France, d'être à Paris, d'avoir des origines d'un peu de partout, que ce soit des Portugais, des Asiatiques, des Africains. Et nous, on a voulu parler de ce qu'on connaît le plus, c'est-à-dire notre continent d'origine, le continent africain. Et voilà, il y a plein de gens qui ont fait des sketchs dessus, etc., mais rarement en duo, voire jamais. Donc on s'est dit, tu sais quoi, regarde, toi, tu vas représenter les Noirs, moi, les Arabes, toi, les Chrétiens, moi, les Musulmans, et puis ça a donné un magnifique cocktail.
Bon bah Diarra, si j'ai bien compris, dans Alors on dit quoi, vous allez déstresser carrément. Hein ?
Absolument, on va déstresser et pour cela, rendez-vous à 9h10 temps universel sur l'antenne Monde.
Et 10h10 sur l'antenne Afrique.
À demain Diarra. Merci Emmanuel.
Et merci à vous tous de votre fidélité. Merci à l'équipe qui prépare chaque jour 7 milliards de voisins. Delphine de Dianous, Cécile Lavolo, Romain Dubrac, Didier Cherouz. Bien sûr, vous pouvez nous retrouver sur l'appli RFI Pure Radio à la rubrique émissions, nous écouter en podcast. Et lundi, 7 milliards de voisins, ce sera la journée mondiale de lutte contre les violences faites aux femmes. Peut-on en finir vraiment avec les coups et les humiliations ? On parlera notamment des mesures gouvernementales annoncées en France à l'issue du Grenelle. Et d'ici là, on reste en contact sur Instagram, sur Facebook, sur Twitter. Merci à vous tous. Très bonne fin de semaine. Dans quelques instants, le journal sur RFI. Carrefour de